France Info.
Le 8h30 politique de France Info à la télé, à la radio. Bienvenue à tous. Jean-Jérôme Bertolus à mes côtés et notre invité Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour.
Bonjour à vous.
La prime à la conversion est victime de son succès. Changement des règles aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus compliqué d'en bénéficier. Écoutez ce qu'en pense Michel Crossiste, un concessionnaire qu'on a pu joindre. Il travaille à Saint-Lô dans la Manche.
Ça va baisser, ça c'est sûr, c'est sûr. Le problème surtout, c'est pour le diesel. Il y a un double dialogue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on taxe les véhicules qui ont du CO2, puisqu'on baisse le grammage de CO2. Par contre, quand on parle de vignette, il n'y a pas que le CO2, il y a les émissions de particules. Les clients s'y perdent, les clients comprennent plus.
Vignette d'un côté, émissions de l'autre, prime à la conversion qui évolue. Est-ce qu'on y comprend quelque chose aujourd'hui ?
Il y a eu deux sujets, puisque j'ai écouté le garagiste il y a une demi-heure, qui parlait effectivement de la façon dont on critérisait un petit peu les émissions. Ça, c'est un vrai sujet,
on pourrait en revenir.
Mais dans l'ordre. D'abord, c'est vrai de dire que ça a été un grand succès. Ça a été 300 000 primes à la conversion en 2018. On est sur, en gros, quasiment 450 000 cette année. Et le gouvernement a voulu resserrer les critères sous deux angles. D'abord, être plus efficace sur le plan environnemental. Vous savez qu'aujourd'hui, pour moitié, les véhicules qui sont achetés sont des véhicules diesel et d'occasion, qui ne sont pas forcément les plus efficaces sur le plan environnemental, et puis resserrer sur la base des critères sociaux, avec l'idée que cette prime bénéficie prioritairement aux 50% des Français les moins aisés. Donc c'est bien ces deux critères.
En l'occurrence, est-ce qu'on n'a pas un problème de sens ? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup climat, protection de la planète, on met une mesure en place, elle marche ? Eh ben on dit, on va revenir en arrière.
Non, je crois justement qu'on a
pourquoi ne pas augmenter le budget plutôt que de dire on va restreindre les conditions mesure qui est bonne visiblement.
Je fais une analyse un peu différente de la vôtre. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu dans le grand débat, c'est que les Français voulaient plus de justice fiscale et plus d'efficacité environnementale. Et le resserrement de ces mesures visait exactement à faire ça. Plus de justice fiscale, c'est resserrer sur ceux qui en ont le plus besoin. Alors c'est anecdotique, mais vous savez que certains Français, c'est 80-85 Français, ont utilisé cette prime pour acheter des véhicules à plus
de 60 000 euros. C'est une très mauvaise idée, on est d'accord, mais c'est
pour dire que
cas sur 450 000.
Vous avez absolument raison.
Année,
mais justice fiscale, le diable se cache un peu dans les détails. Et puis efficacité environnementale, vous avez raison sur le sujet des critères qu'il faut peut-être revoir dans un temps un peu plus lointain. Mais je crois que c'est important d'avoir une action, on va dire, volontariste vis-à-vis de l'écologie et donc de la transition de ces véhicules qui doivent être plus efficaces sur le plan environnemental.
Alors, Jean-Jérôme Bertolus.
Jean-Baptiste Djebbari, c'est un week-end, le prochain week-end de grands chassés croisés pour les vacanciers, classés noirs d'ailleurs par Bison Futé. Les automobilistes vont se plaindre une nouvelle fois de la hausse de péage. Finalement, c'était vraiment un mauvais coup de privatiser les autoroutes. Vous estimez qu'il faudrait les renationaliser ?
Non, j'estime pas qu'il faut les renationaliser. J'ai posé dans le débat politique il y a quelques semaines le fait que les plus grosses concessions, et vous le savez, arrivent à échéance entre 2031 et 2036.
Il faudrait que l'État reprenne la main.
Et donc l'État devra se positionner. En tout cas, il devra dire clairement ce qu'il compte faire. Soit il continue effectivement à concéder ses autoroutes. Et moi, je veux pas être polémique là-dessus. Les autoroutiers, depuis d'ailleurs les années 60, ont fait un grand travail d'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, les prix des péages depuis 2008 sont finalement, enfin, l'augmentation du prix des péages, c'est à peu près 1,5%, est assez pondérée. Mais l'État, stratège, est fondé à se poser la question de savoir ce qu'il entend faire avec ces grandes infras, les autoroutes, l'énergie, les télécoms, et c'est la question que j'ai posée.
Toujours en matière de transport, puisque vous parlez de grandes infrastructures, vous êtes pour la privatisation d'Aéroports de Paris ?
C'est un peu différent, la privatisation d'Aéroports de Paris, parce que, d'abord, c'est une entreprise dont l'essentiel des revenus aujourd'hui se fait sur les commerces, qui a besoin de développement
international. Bruno Le Maire le dit, mais on peut dire aussi que c'est une entreprise stratégique, effectivement. C'est la première porte d'entrée en France. Est-ce que vous comprenez quand même que cette privatisation suscite des doutes ?
C'est pour ça qu'il faut un tout petit peu entrer dans le détail. Dire la privatisation, ça sous-entend, en tout cas dans l'opinion publique, que tout devient privé, que le contrôle aérien devient privé, que finalement on va avoir la douane, les contrôles aux frontières qui va être privatisé, ce qui n'est pas du tout le cas. Le régalien reste au régalien. Et c'est simplement prendre acte que Aéroports de Paris a besoin de se développer, a besoin de se financer. Vous savez qu'il y a des échéances en 2024, notamment avec les JO, qu'un nouveau terminal T4 doit être construit et que Aéroports de Paris a besoin de capitaux et qu'il est paru. Il
ça rapporte aujourd'hui à l'aéroport de Paris.
Oui, ça rapporte en dividende. Ça rapporte en dividende. 2017, d'ailleurs, l'année qui a été choisie, en tout cas qui est toujours prise comme exemple, est l'année des meilleurs dividendes sur les 5-6 dernières années. C'est aussi assez fluctuant. Et là, c'est un choix, si vous voulez, c'est un choix politique. C'est pas l'alpha et l'oméga de
comme pour les autoroutes. D'ailleurs, c'est Bruno Le Maire, qui était directeur de cabinet à l'époque, qui avait effectivement privatisé les autoroutes.
Les conditions de la privatisation d'aéroports de Paris, qui ont été inscrites dans la loi, sont beaucoup plus puissantes en termes de régulation de l'État sur la régulation économique, justement les redevances et sur la capacité à imposer des investissements que ne l'avaient été à l'époque les conditions imposées aux autoroutiers.
Puisqu'on a parlé émissions de CO2 et qu'on était à l'aéroport, on va y rester. François Ruffin, que vous connaissez bien, député de la France Insoumise, a déposé il y a quelques semaines une proposition de loi pour interdire les petites liaisons aériennes. Écoutez-le.
C'est une question de santé mondiale presque. Là, des avions, un vol entre Paris et Marseille, mais 50 fois plus de CO2, de gaz à effet de serre, que le train. Le train prend à peine plus de temps. Donc là, il y a quand même des questions à se poser. Moi, je ne crois pas qu'il suffira de faire appel à la bonne volonté des consommateurs.
Alors, tout le monde ne peut pas prendre un voilier comme Greta Thunberg, mais est-ce que vous conseillez aux Français de partir en vacances en train plutôt qu'en avion ?
Il disait une chose intéressante à François Ruffin, il disait qu'il ne pensait pas qu'il fallait faire confiance aux consommateurs. Eh ben, l'histoire nous prouve le contraire. Quand sur la ligne Paris-Bordeaux ou la ligne Paris-Strasbourg, le train à grande vitesse est arrivé, 60% des consommateurs ont préféré le train. Parce qu'effectivement, le temps était quasiment similaire, parce que c'était souvent moins cher, parce que ça correspondait à leurs besoins qu'ils avaient de centre-ville à centre-ville. Donc oui, il faut éduquer le consommateur, mais il faut lui faire confiance. Les gens ne sont pas idiots, et à prix équivalent, à service équivalent, les gens ont une conscience environnementale, et moi je préfère
vous êtes député de la
faire le pari.
Vous dites, Paris-Limoges, ça marche bien en train.
Là, c'est un peu différent, parce que Paris-Limoges...
Ah oui, à chaque fois que c'est concret, non, c'est un peu différent.
Non, Paris-Limoges, c'est 3h20 en train, pour y aller. Donc c'est 7 heures aller-retour dans la journée. Et donc nous avons des lignes qu'on appelle des lignes d'aménagement du territoire qui sont effectivement subventionnées entre Lyon et Limoges et entre Limoges et Paris parce que ça permet aussi l'attractivité du territoire et notamment garder des boîtes parce que c'est quand même important. Mais quand vous avez des lignes qui mettent Paris-Bordeaux à 2 heures ou Paris-Strasbourg à 1h30, alors effectivement l'usager a un choix qui...
Mais qu'est-ce que vous dites ce matin aux Français qui nous écoutent quand même et qui vont partir en vacances ou qui reviennent de vacances? Préférer le train, c'est quand même plus écolo alors qu'on vient de vivre deux périodes de canicule.
Préfère le train de plus en plus, puisque notamment la commande de la SNCF hier d'ajouter 12 rames fait suite à la grande croissance du TGV en France. Et la SNCF, le ferroviaire en France, est en croissance. Et c'est très bien ainsi. Mais je vous le dis, il y a parfois de la concurrence entre la ligne à grande vitesse, le train et l'air. Et il y a parfois de la complémentarité, notamment dans les régions. Allez à Brive, allez à Souillac, allez à Aurillac, allez à Limoges. Vous verrez que les lignes d'aménagement du territoire en avion sont aussi des conditions d'attractivité de ces territoires.
Et en l'occurrence, on y prend beaucoup le bus désormais dans ces régions pour faire des déplacements. Ça coûte moins cher, ça pollue beaucoup plus.
Alors ça dépend de combien est rempli votre bus. Mais vous voyez, encore une fois, dans les modes de transport, je pense qu'on peut agir beaucoup plus en complémentarité et arrêter d'opposer les modes et donc les Français les uns aux autres.
Allez, on poursuit la discussion après un point sur l'info à 8h40 avec Claire Flochel.
Une violente bagarre à Famec en Moselle hier. Elle fait un mort, un adolescent de 17 ans, décédé dans la soirée à l'hôpital. Deux autres ont été grièvement blessés. Une bagarre à coups de couteau a éclaté entre deux bandes rivales. Bagarre qui pourrait être liée au trafic de drogue. Des gendarmes et des policiers soupçonnés d'avoir publié des messages choquants sur Internet. Où est Steve ? Maintenant, il est au frigo. Peut-on lire par exemple sur Twitter des commentaires apparus après l'identification de Steve Canisso, dont le corps a été repêché dans la Loire. Des enquêtes sont en cours pour identifier les internautes. L'un d'eux est bien gendarme, il sera prochainement convoqué. Sur la liste des changements, ce 1er août, il y a la baisse des tarifs réglementés du gaz, une baisse de 0,1 à 0,6% selon les contrats. A l'inverse, le prix de l'électricité augmente de 1,23% après déjà une hausse de près de 6% en juin. Et puis l'épidémie d'Ebola continue de provoquer l'inquiétude en République démocratique du Congo. Un deuxième malade est mort à Goma, grande ville de l'est du pays, et 15 personnes ont été mises en quarantaine dans la province voisine du sud. Kivu.
France Info. Jean-Baptiste Djebbari, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée, et notre invité. Le corps de Steve Canisso a été repêché dans la Loire. Les conclusions du rapport de l'IGPN font débat depuis deux jours maintenant. Des députés, PS, La France Insoumise, réclament une commission d'enquête parlementaire. C'est également le cas du président du Conseil Général du département de la Loire-Atlantique.
C'est déjà devenu une affaire d'État, il ne faudrait pas que ça devienne une affaire politique. Il faut que les parlementaires agissent de concert pour garantir aux citoyens français que toute la transparence et toute l'indépendance dans cette affaire et que nous connaissions la vérité. C'est le moins que l'on puisse revendiquer et réclamer.
Qu'est-ce que vous répondez à Philippe Grosvalet ?
Bon, il fait de la politique et je crois que faire de la politique sur une affaire aussi dramatique, ce n'est pas souhaitable. Je crois que ce qu'il faut...
Vous trouvez que... L'opposition instrumentalise cette affaire.
Écoutez, je crois que ce qu'il faut, c'est de la vérité, de la transparence, et que c'est l'engagement du gouvernement, non seulement effectivement d'accompagnement des familles, et je crois que les mots du Premier ministre et de Christophe Castaner étaient importants il y a deux jours pour dire les condoléances et le soutien aux familles, et je pense qu'il faut effectivement de la transparence. Il y a des choses qui ont été dites
des
par les GPN.
Des mots dont beaucoup dans la majorité et au gouvernement pensent qu'ils ont manqué pendant cinq semaines.
Oui, mais on nous reproche un peu tout et son contraire. Les mots, ils ont...
Non, je parle en interne. Ils sont des critiques qu'on a entendues, qu'on nous a confiées.
Les mots, ils ont existé. Je crois que c'était important effectivement de faire preuve de compassion, d'empathie et de soutien aux familles. Sur le fond de l'affaire et l'exigence de vérité et de transparence, l'IGPN a dit des choses. Il semblerait qu'il y ait d'autres éléments à voir, notamment sur l'organisation de la manifestation, le rôle des pouvoirs publics, et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a diligenté une enquête menée par l'Inspection Générale de l'Administration. Et vous savez par ailleurs qu'une information judiciaire est en cours, qui porte d'ailleurs sur des faits d'homicide involontaire et qui sera alimentée par les différentes enquêtes administratives.
Donc vous dites non à cette commission d'enquête demandée par certains de vos collègues, mais comment rétablir la confiance, même le rapport de l'IGPN est remis en doute, comment rétablir aussi la confiance entre la police et une partie des citoyens?
Mais vous savez, d'abord je dis qu'il n'y a pas d'affaire d'État, qu'il y a une préoccupation de l'État et elle est bien légitime.
Mais il y a une affaire politique en revanche, non?
Mais moi je pense que le pays n'a pas besoin des suspicions permanentes. Si on prend l'affaire de Rugy il y a encore une semaine, on mettait quelque part la suspicion, le doute sur des fonctionnaires indépendants qui font des enquêtes et qui contrôlent l'action du gouvernement. Là, on fait un mauvais procès à l'IGPN d'être partisan, de répondre à une autorité politique particulière et quelque part de biaiser les conclusions d'enquête. C'est pas responsable. Les fonctionnaires sont des gens dont la probité n'est pas à démontrer, qui sont engagés pour la manifestation de la vérité, et je pense qu'il faut le prendre comme tel. On n'est pas le pays de la délation, on n'est pas le pays de la suspicion, et donc attendant paisiblement, sereinement, que la vérité émerge de ces différentes enquêtes, et après les conclusions seront tirées. Les conclusions...
Et mais on ne peut pas nier des rapports hiérarchiques qui ont existé quand il y a eu la semaine dernière une enquête à l'Assemblée avec François de Rugy, qui existe par rapport au ministère de l'Intérieur dans une affaire comme celle-là, et l'absence totale, par exemple, de sanctions depuis le début de l'année sur des affaires policières dont on sait qu'elles font débat dans la société.
Oui, mais si vous prenez les deux, trois dernières années, des enquêtes de l'IGPN qui ont donné lieu à des sanctions, évidemment, ça existe.
Sur des cas individuels, sur des politiques de maintien de l'ordre collectif décidées notamment par le politique,
est-ce qu'il y en a eu ? Et vous avez vu que la doctrine d'emploi, notamment du maintien de l'ordre, ces dernières semaines, ces derniers mois, a déjà évolué pour prendre en compte les événements qui s'étaient passés, notamment cette crise sociale et ces manifestations de violence tout à fait insupportables.
Au cours de ces dernières 24 heures, on a vu un Christophe Castaner, un ministre de l'Intérieur, muet aux côtés Premier ministre. On écoute hier Édouard Philippe.
Je peux vous dire que le Premier ministre que je suis apporte évidemment tout son soutien à Christophe Castaner, que j'ai pleinement confiance en lui et que nous sommes mobilisés à la tâche pour n'accuser personne et ne dédouaner personne. Ce que nous souhaitons, c'est que la transparence soit faite, que les faits soient établis et que les responsabilités soient tirées.
Est-ce que Christophe Castaner n'est pas fragilisé? Est-ce qu'il avait pris toute la mesure de cette affaire, un jeune homme de 24 ans qui va écouter de la musique et qui meurt?
Vous savez, je crois que le Premier ministre a, et d'ailleurs la majorité, a prononcé son soutien à Christophe Castaner, que le Premier ministre a accompagné Christophe Castaner hier au détour notamment de visites sur des sites de la protection civile. Donc,
un bon ministre de l'Intérieur?
C'est un boulot qui est d'une complexité absolue, où vous gérez la vie quotidienne, vous maintenez la paix civile, où vous avez affaire à quand même aujourd'hui une crise sociale qui n'est pas à démentir.
Ça c'est pour la fiche du job, mais non, est-ce qu'il le fait bien?
Et je pense que tous les ministres de l'Intérieur de la 5e ont été à certains moments critiqués parce que le job est compliqué. Et je pense qu'il le fait honorablement et qu'il le fait dans des conditions qui sont compliquées.
Vous avez pu constater, comme nous, ces derniers jours, les dégradations commises notamment sur des permanences de députés La République En Marche. Vous avez voté vous-même pour le CETA à l'Assemblée il y a quelques jours. Est-ce que vous vous sentez menacé, par exemple, dans la Haute-Vienne, qui est un département avec des agriculteurs, bien sûr, qui ont exprimé leur colère ces derniers jours?
Moi, j'ai eu ma permanence déjà murée. J'avais eu des rails à l'époque de la réforme ferroviaire qui avaient été scellés devant ma permanence. Je crois que il faut maintenir le contact. Moi, demain, je serai dans une exploitation agricole auprès d'agriculteurs qui contestent le CETA. Mais je crois que l'essentiel, c'est quand même de maintenir le contact, le dialogue politique, le débat politique. Il y a parfois de la désinformation et puis parfois, il y a des vraies oppositions. Et en aucun cas, le débat démocratique doit être biaisé ou influencé par des actes qui sont des actes que je crois on doit condamner. Nul né censé en France est inquiété pour ses opinions, pour ses votes, et je crois qu'il est important de le rappeler. Le débat politique, oui, pleinement. L'influence et quelque part la menace et l'intimidation par des actes comme ça, non.
Mais la France insoumise a semblé comprendre, notamment les jeunes agriculteurs qui s'en sont pris à certaines permanences, et pourtant, vous allez aller à l'université d'été de la France insoumise. Comment vous expliquez effectivement ce dialogue?
Moi, j'ai été invité par Mathilde Panot, avec qui je siège à la commission
des Députée de la France Insoumise,
absolument, oui. Pour débattre de l'urgence écologique. Et je pense que c'est d'ailleurs Ségolène Royal qui le disait, qu'un adversaire politique n'est pas un ennemi, mais c'est un partenaire du débat démocratique. Et je pense qu'il faut toujours aller débattre, y compris aller combattre ses adversaires politiques, aussi dans l'espoir un peu de les convaincre. Donc je pense qu'il faut jamais casser ce lien-là. Mais c'est vrai que, moi je l'ai dénoncé plusieurs reprises, cette ambiguïté qu'a, quelque part, tissé la France insoumise à l'égard des différentes violences, que ce soit pendant la crise des Gilets jaunes ou aujourd'hui à l'égard des violences qui ont trait ou se font à l'égard des députés, ça me paraît être une ambiguïté qui n'est pas favorable à la démocratie,
ambiguïté
qui n'est pas favorable
et
à la République.
Hystérisation un petit peu du débat.
Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de violence légitime à l'égard de gens qui sont démocratiquement élus, de députés qui font leur travail avec passion, honorablement, au service des Français, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et moi, je ne fais pas le distinguo entre les députés de la France Insoumise et les députés de la République en Marche. Chacun défend ses idées et chacun a la démocratie, a la légitimité de l'élection.
C'est important de pouvoir discuter entre partis qui s'opposent à l'Assemblée. Vous attendez à quel accueil, vous
Je ne m'accorde pas à des applaudissements particulièrement fournis, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai les grands débats, vous savez, j'en ai fait 5. J'en ai fait d'ailleurs un en prison. On est chaque fois reçu avec une forme de doute, et puis le dialogue s'installe. Je crois qu'il faut être accessible, il faut être vrai, il faut dire les choses, et je crois que dans le débat, les choses souvent s'appellent.
Est-ce que vous allez inviter François Ruffin ou Jean-Luc Mélenchon aux universités d'été
de La République En Marche ? Je vous promets d'y réfléchir ce week-end abondamment.
Très vite, la rentrée politique va être placée sous le signe des municipales. Vous êtes candidat à Limoges ?
Je fais partie effectivement de ceux qui coordonnent le projet municipal à Limoges, et nous déciderons collectivement mi-septembre, fin
donc
septembre,
plutôt, de ce que nous plutôt faisons. Oui.
Plutôt une réflexion qui avance et qui progresse.
Et d'un mot, vous ne craignez pas que ces municipales soient très fratricides au sein de la majorité, comme on le voit à Paris, comme on le voit à Lyon, comme on le voit à Lille?
Non, je pense qu'il y a beaucoup d'engagement, de motivation pour les candidats qui veulent défendre des projets pour des villes, et que comme toujours, ça crée des frustrations, mais que celles-ci seront apaisées dans le temps avec beaucoup de dialogue et d'explications.
Et prochaine explication pour votre candidature à la mairie de Limoges sur France Info, Jean-Baptiste Djebari. Voilà. Bon été à vous, on se retrouvera évidemment à la rentrée. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du groupe La République En Marche.